semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 28 juin, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi podcaster cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Nous sommes cette semaine en compagnie de Serge Sure, le rédacteur en chef de la revue Questions Internationales, éditée par la Documentation Française. Bonjour Serge Sure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et le dernier numéro en date de Questions Internationales porte comme titre, comme couverture, l'été 14, avec une comparaison de deux époques.
Voilà, l'idée n'est pas du tout de faire un numéro qui serait purement historique, mais en même temps, il nous paraissait très difficile d'éluder cet anniversaire, d'éluder ce centenaire, qui d'abord est un événement actuel, un événement contemporain, qui a donné lieu à beaucoup de manifestations et de réflexions.
Et qui continue.
Et puis, ensuite, de mettre en perspective le siècle qui a été profondément marqué par le conflit, par le premier conflit mondial, dont on voit aujourd'hui un certain nombre de conséquences, et à la limite, on peut se demander si on n'est pas en train doucement de revenir au monde d'avant 14, plus qu'on ne resterait dans le monde d'après 45.
Avec deux photos qui sont très, très parlantes, qui coupent la page en deux parties, les dirigeants du G7, G8 actuel, et puis en dessous, la famille royale, les cousins qui dirigeaient l'Europe, en quelque sorte, à l'époque.
Oui, voilà. Alors ça illustre à la fois des changements et une permanence. Les changements, parce que nous avons affaire à des gouvernements, à des chefs d'État ou de gouvernements démocratiques, par opposition à une famille royale. Et puis parce qu'il y a des dirigeants du monde entier et pas simplement de l'Europe. Mais en même temps, il y a toujours des dirigeants et il y a toujours une certaine forme de pluralisme et une certaine forme de hiérarchie entre les États, puisque ce ne sont pas tous les États qui sont là, c'est pas l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un groupe autodésigné de grande puissance, de la même manière que l'Europe était gérée de façon aristocratique à la fin du 19e au début du 20e siècle.
Sept jours dans le monde.
Serge Sure, partons d'abord pour l'Irak, pour revenir sur l'alliance, en quelque sorte, d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Irak et au Levant. Des combattants du front Al-Nosra, branche syrienne donc d'Al-Qaïda, ont fait allégeance à leurs frères ennemis de l'État islamique en Irak et au Levant, à Boukamal, principale localité frontalière entre la Syrie et l'Irak. Toufik Ben Aïchouch.
La fin des hostilités entre les deux groupes rivaux s'est faite dans la nuit de mardi à mercredi. De fait, donc, l'État islamique en Irak et au Levant contrôle parfaitement les deux côtés de la frontière syro-irakienne. Les combattants d'Al-Nusra et ceux de l'État islamique en Irak et au Levant combattaient certes le régime syrien de Bachar el-Assad, mais se disputaient aussi l'héritage d'Al-Qaïda. Des combats extrêmement sanglants ont opposé les deux groupes rivaux. Ils se sont soldés par des milliers de morts. Al-Nusra a donc finalement accepté de se fondre au sein de l'Irak et au Levant. Ce dernier, fort de ses victoires, a amoncelé une fortune considérable avec la contrebande de pétrole en Irak et le pillage de la banque de Mossoul. Il a acquis aussi un armement moderne, ravi en partie à l'armée irakienne ou ce qu'il en reste, ce qui le rend encore plus puissant. Bachar el-Assad, lui, doit se frotter les mains car son opposition armée, laïque et républicaine, devra tôt ou tard en découdre avec les djihadistes désormais unis.
Irak toujours, et partons cette fois pour la région de Kirkouk, dans la petite ville de Mala Abdullah, avec un reportage d'Abla Junaidi, lundi.
Le village arabe sunnite de Mala Abdullah est aux mains des combattants kurdes, les Peshmerga, depuis que l'EIIL a tenté de s'en emparer. Les hommes du général Sadi Ahmad y ont installé un régiment et désormais font face aux djihadistes et leurs alliés qui ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Entre eux, un canal enjambé par un pont, il est devenu une frontière, d'où l'enjeu de contrôler ce pont. S'il n'y a pas vraiment eu d'offensive d'un côté ou de l'autre, les Peshmerga disent avoir repoussé plusieurs tentatives d'incursion de l'EIIL. La hantise des Kurdes et de voir les djihadistes aller poser des bombes contre des convois de Peshmerga ou encore s'attaquer aux infrastructures. Cela est déjà arrivé. Juste avant l'arrivée des Kurdes, les djihadistes ont fait exploser une partie d'un oléoduc polluant en partie le canal. L'autre risque pour les hommes du général Ahmad, ce sont les tireurs embusqués qui visent presque quotidiennement la position des Peshmerga. Pas de quoi les décourager, ils disent garder le moral. S'ils ne comptent pas avancer au-delà de ce canal, hors de question de céder un pouce de ce territoire dont ils revendiquent la propriété bloquée depuis des décennies.
La situation en Irak est évidemment à suivre dans nos différents journaux. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Serge Sûr, rédacteur en chef donc de Questions internationales et auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Les aventures de la mondialisation, les relations internationales au début du XXIe siècle », publié également à la Documentation française. Alors l'Irak, comment comprendre, comment appréhender cette allégeance d'Al-Qaïda à leurs frères ennemis de l'État islamique en Irak et au Levant, et comment comprendre cette situation globale de l'Irak, du pouvoir en place assiégé finalement.
Oui, alors écoutez, voilà une très vaste question qui comporte plusieurs lignes de réponse. Mais si on remonte pour une seconde à l'origine, je crois qu'il faut rappeler que là encore, nous sommes dans les conséquences de la Première Guerre mondiale, puisque la situation de cet ensemble du Proche et Moyen-Orient découle des accords Sykes-Picot, oui, conclus en 1916. Dans le cadre de la décomposition de l'Empire ottoman, les Anglais et les Français se partageant en quelque sorte zones d'influence et de domination territoriale dans les la mandats. Région, sans les États-Unis qui restent à l'écart et qui vont tout de même essayer de peser pour que les choses se fassent dans le cadre de la Société des Nations. Et c'est de là que va découler la structure étatique qui est aujourd'hui profondément remise en cause. Et on assiste à une destruction progressive de la construction qui avait été élaborée après la Première Guerre mondiale et qui avait tenu plus ou moins bien jusqu'alors. Alors ça peut se traduire par des décompositions étatiques, c'est le cas en Irak, c'est le cas aussi en partie en Syrie, ça peut se traduire par des tribulations internes, par des tourments internes, comme par exemple en Égypte. Ça peut se traduire aussi par des interventions extérieures, et là nous arrivons plus directement au problème irakien, c'est tout de même l'intervention américaine de 2003 qui a conduit à détruire les bases mêmes de la stabilité irakienne. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, là n'est pas la question. Mais le résultat, c'est tout de même que nous sommes en présence d'un processus de partition de l'Irak, qui d'ailleurs est peut-être acceptable pour les États-Unis. Après tout, ils peuvent très bien vivre avec une partie kurde, une partie sunnite, une partie chiite. Ça, c'est une vision extérieure, mais sur le plan local, il est bien clair que l'affrontement entre les sunnites et les chiites trouve là une nouvelle dimension. Cet affrontement, il existe aussi au Liban, il existe en Syrie, et on voit bien qu'il y a des États qui sont pro-sunnites, à très forte majorité sunnite, et puis qu'il y a l'Iran qui est le cœur d'une sorte d'arc.
L'Iran dans cette crise, oui, dans cette situation, revient à la une.
Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une logique de géopolitique froide à certains égards, puisque on voit les États-Unis et l'Iran se rapprocher pour la défense du régime chiite irakien, tout en étant par ailleurs profondément opposés. Donc il y a cette logique de géopolitique froide, mais à côté, il y a cette logique d'affrontement religieux chaud, si je puis dire, qui est lui plus local. Alors, vous parliez du rapprochement entre l'Al-Qaïda et puis ISIS, si je puis dire, dans l'acronyme anglo-saxon, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et en Syrie. Je crois que c'est un rapprochement un petit peu de même nature que celui entre les États-Unis et l'Iran, c'est-à-dire qu'il est purement conjoncturel, il est opportuniste et il ne correspond pas à une véritable solidarité de fond.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Merci de votre fidélité, Serge Sûr. Nous allons partir maintenant dans l'est de l'Ukraine où la situation restait tendue malgré un cessez-le-feu qui devait s'achever hier vendredi. Écoutez par exemple ce reportage de notre envoyé spécial à Slaviansk, Damien Simonard.
Cessez-le-feu ou pas, pas une seule nuit ne se déroule dans le calme à Slaviansk depuis plus de 2 mois. Des tirs d'artillerie lourdes résonnent par intervalles dans la ville où les barrages tenus par les séparatistes sont de plus en plus nombreux. Les insurgés sont bien équipés, armes automatiques, mortiers, lance-roquettes et même batteries anti-aériennes. Ces dernières sont souvent bâchées sur des remorques, elles-mêmes cachées sous les arbres. Mardi, en fin de journée, les séparatistes ont abattu un hélicoptère militaire venu, selon des sources officielles, faire une mission de reconnaissance dans les environs de Slaviansk. 9 militaires ont perdu la vie dans le crash de l'appareil. D'après les forces gouvernementales, l'armée ukrainienne aurait subi une quarantaine d'attaques depuis lundi, malgré l'accord des séparatistes pro-russes de respecter le cessez-le-feu. En réponse à ce regain de violence sur le terrain, le président ukrainien Petro Poroshenko a menacé de suspendre la trêve, finalement maintenue jusqu'à demain soir. Mais les habitants de Slaviansk, dont la moitié de la population a fui, s'attendent encore à de longues semaines de combat.
Et le président ukrainien donc a signé hier vendredi l'accord d'association avec l'Union européenne. L'actualité ukrainienne est à retrouver bien sûr sur notre antenne et sur le site aussi de la radio www.rfi.fr. Suite d'une semaine d'actualité, un tribunal égyptien a condamné lundi à des peines de 7 à 10 ans de prison trois journalistes d'Al Jazeera accusés de soutien aux islamistes. Un verdict qui a suscité une levée de boucliers à l'étranger. Correspondance de François Humfer Kataji.
Et moi, dans le tribunal, le juge Mohamed Nagui, derrière ses lunettes au vert foncé, vient de prononcer des peines de 7 à 10 ans de prison pour les trois journalistes. À la sortie, les proches de l'égypto-canadien Mohamed Fahmy, ancien chef du bureau d'Al Jazeera au Caire, sont effondrés.
Pouvez-vous me dire ce qu'il a fait pour mériter 7 ans de prison? Qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos? Il n'y a rien contre eux.
Je faisais confiance en la justice égyptienne, mais je me suis complètement trompé.
L'avocat de la défense, Shahaban Saïd, regrette de ne pas avoir pu accéder au dossier. Aujourd'hui, il dénonce un procès politique et répète qu'il n'y a aucune preuve contre les accusés. Même constat pour l'observateur d'Amnesty International, Mohamed Afti, qui a assisté aux 12 audiences du procès. Il dénonce un moyen de pression sur les médias.
Ce verdict doit être vu comme un message clair à la presse égyptienne et aux médias étrangers. Vous pouvez être arrêté, jugé et mis en prison pour avoir fait normalement votre travail, c'est-à-dire relayer des informations et avoir plusieurs sources. Vous devez aussi vous inquiéter de savoir si votre propos est en accord avec la ligne gouvernementale.
Aucune grâce présidentielle ne peut intervenir avant qu'une cour d'appel n'ait statué sur l'affaire.
Suite d'une semaine d'actualité, Serge Sûr, avant de vous retrouver, partons à New York avec une originalité à l'ONU que nous a raconté de New York précisément Karim Lebourg, mardi.
C'est une bizarrerie de plus dans la galerie déjà très garnie de l'ONU. Le quatrième comité de l'Assemblée Générale, celui chargé notamment de la décolonisation et des réfugiés palestiniens, vient de se doter d'un vice-président israélien. Mordechai Amorai était soutenu par le groupe des Occidentaux, dont l'Union Européenne et les États-Unis, qui ne ménagent pas leurs critiques et leur ironie lorsque Cuba ou l'Iran sont élus par exemple au Conseil des droits de l'homme. Furieux, les pays arabes ont demandé et perdu un vote, qualifiant cette nomination de honte pour l'ONU. À l'ONU, les diplomates occidentaux ont du mal à justifier ce choix. Le Royaume-Uni, qui préside le groupe, explique que Mordechai Amorai est élu en sa capacité personnelle et non nationale et qu'il se doit de faire preuve d'impartialité et de professionnalisme. En coulisses, un diplomate reconnaît un choix aberrant, mais explique que les Israéliens sont souvent ostracisés à l'ONU et qu'il fallait bien leur donner un siège quelque part.
Suite d'une semaine d'actualité sur cette bizarrerie onusienne, une de plus. Serge Sûr, vous avez un commentaire. Je sais que vous vous intéressez, on va en reparler à ce qu'on appelle le multilatéralisme, à l'importance de l'ONU aujourd'hui.
Oui, ne serait-ce que parce que j'ai passé 10 ans aux Nations Unies, oui, et donc j'ai connu cette maison un peu de l'intérieur. Écoutez, ça n'est pas... Je veux dire, sur le choix de la personne, on peut très bien le comprendre. Dès lors qu'il a le professionnalisme, la compétence qui est requise, il n'y a aucune raison qu'il subisse une discrimination professionnelle.
Bien entendu.
Voilà, si c'est un choix de caractère administratif, il est parfaitement compréhensible. Maintenant, on ne peut pas oublier qu'il y a cette dimension politique, ce caractère symbolique, et je comprends à la fois les réactions de ceux qui, au sein des Nations Unies, disent il a droit à un déroulement de carrière et par conséquent rien ne doit lui être interdit pour des raisons qui seraient nationales ou religieuses. Mais je comprends aussi qu'on peut juger que ça n'était pas très opportun.
Ça rappelle tout le débat autour du comité de la commission des droits de l'homme de l'ONU où on s'est aperçu que parfois ce sont les violateurs des droits de l'homme qui dirigeaient, qui menaient le bal.
Qui avait sans doute un caractère plus marqué parce que ce qu'on désignait c'était des représentants d'État.
Ouais.
Pas des fonctionnaires.
Et il faut noter aussi qu'Israël était souvent la cible, et souvent la cible de cette,
Israël est souvent
de cette commission.
Mais Israël, c'est une position qui ne lui déplaît pas forcément.
Ouais. Serge Sûr, parlons de l'Ukraine. Je sais que vous suivez aussi cette crise européenne avec attention.
Alors écoutez, là j'ai envie de tenir des propos qui ne sont pas orthodoxes, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes à ce qu'on entend généralement de la part des autorités publiques, et notamment des autorités publiques françaises. D'abord, c'est un jeu à somme négative pour tous. Il n'y a dans cette affaire ukrainienne que des perdants. La Russie est perdante, l'Ukraine est perdante, l'Union européenne est perdante, l'OTAN est perdant, Les États-Unis sont perdants, tout le monde pour des raisons différentes. Mais on ne voit pas quel bénéfice aucun de ses protagonistes peut en tirer. Et je crois que l'origine, là, ça n'est pas la Première Guerre mondiale, mais c'est plutôt les suites de 1989, de la chute du mur de Berlin, qui avait été un immense succès pour les Occidentaux, puisque il y avait l'effondrement de l'URSS, la réunification allemande, tout ça sans un coup de feu, de façon pacifique. On a réussi la chute de l'URSS, et on l'a réussi dans des conditions qui étaient inattendues, et presque miraculeuses. Mais en revanche, on a raté le retour de la Russie dans le concert international, et notamment dans le concert européen. Alors que il aurait été très facile de prolonger dans la suite de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui avait joué son rôle dans la détente et finalement dans l'effondrement de l'URSS. On aurait pu continuer dans cette voie et reconstruire un ordre international pacifique où la Russie aurait eu sa place. D'ailleurs, elle ne souhaitait que cela. On ne l'a pas fait. Tout au contraire, on a dit on va reconstruire l'ordre de sécurité européen autour de l'OTAN.
Voilà, parce que l'OTAN est là. Humilié donc, hein,
la, et on a Russie, humilié ouais, la ouais, Russie. Ouais. Alors je crois que, je ne dirais pas qu'il y a là un calcul, parce que je crois que c'est plutôt le fait de l'indifférence, et notamment de l'indifférence des États-Unis. Je crois qu'il y a beaucoup de reproches à faire à l'administration Clinton. Plus qu'à l'administration Bush, qu'en général on prend comme cible. Mais il y a eu une période, une dizaine d'années, pendant le mandat du président Clinton, où les États-Unis pouvaient reconfigurer l'ordre international, exercer un véritable leadership, ils n'ont rien fait. Sinon, l'OMC, qui était la seule chose qui intéressait le président Clinton, l'ouverture des marchés, mais sur le plan politique, indifférence, laissez-faire. Le résultat, ça a été la crise yougoslave, la fragmentation de la Yougoslavie. Autrement dit, à la dissolution des empires, succède aujourd'hui la fragmentation des États. Et on l'a vu tout à l'heure pour le prochain Moyen-Orient, mais elle est plus large. Elle concerne aussi l'Afrique, elle concerne aussi l'Europe. L'affaire ukrainienne, c'est le dernier avatar de cette négligence des grandes puissances, et spécialement des États-Unis, à l'égard de la Russie. On a le sentiment qu'on est revenu à une perspective où la Russie serait un ennemi, ce qu'elle n'est en aucune façon. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas la Russie de la même manière qu'on traite la Chine, par exemple, comme un partenaire, pas nécessairement comme un État qui vous est sympathique, mais comme un partenaire. Et on a laissé faire ceux qui sont favorables, les États frustrés de l'Union européenne, qui sont favorables à l'antagonisme avec la Russie, c'est-à-dire la Pologne et les Pays-Baltes. Et l'Ukraine se trouve un petit peu comme l'enfant martyr dans cette configuration.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, Serge Sûr, Vladimir Poutine a beau jeu de prendre les positions qu'il prend, les postures.
Il a beaucoup d'arguments, mais en même temps, la Russie n'est pas gagnante dans cette affaire. Parce que les petits avantages qu'elle peut obtenir, qui sont des avantages de vanité, si je puis dire, comportent aussi beaucoup d'inconvénients sur le plan politique, sur le plan économique. Il y a un coût. Il y a un coût qui est élevé et qui peut être prolongé. Mais enfin, on peut très bien comprendre la position du président Poutine, qui ne me paraît pas devoir être diabolisée.
Alors, vous avez dans ce numéro de Questions internationales une contribution, un article qui s'intitule « Ouverture, l'été 14, un siècle après, rupture, dynamique, invariant ». Il faut noter qu'après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée, et qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ONU qui a été créée. Donc, la coïncidence est frappante et doit être à nouveau soulignée.
Oui, alors, il est vrai, mais c'est depuis très longtemps en Europe, si vous voulez, les grands changements et les grandes avancées en matière de paix se font à l'issue des grands conflits, comme il est normal. Hein. Ça a été le cas après la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle, après la série des guerres napoléoniennes, les traités de Vienne en 1815, puis la SDN en 1919, puis l'ONU en 1945. On voit bien que chaque période conflictuelle suscite une tentative de réorganisation de la paix. Et le problème, c'est qu'après 1989, puisqu'il n'y avait pas eu de conflit, puisqu'au fond les choses s'étaient déroulées de façon pacifique, on ne s'est pas préoccupé de réorganiser la paix et on a conservé très largement les structures mentales de la période précédente. Et on les voit ressurgir aujourd'hui, ces structures mentales, alors qu'elles sont complètement dépassées.
Avec des pays émergents, et d'où cet appel récurrent à la réforme des Nations Unies.
D'où cet appel à la réforme des Nations Unies,
mais l'élargissement du Conseil de sécurité, par exemple.
Il faut bien dire que la réforme du Conseil de sécurité, qui serait utile, certainement, elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas. On peut trouver d'autres institutions, on peut améliorer les mécanismes, mais on ne peut pas réviser la charte.
Tout est bloqué.
Tout est bloqué pour des raisons juridiques et politiques.
Serge Sûr, nous allons marquer une pause. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté quelques nouvelles de ces dernières heures sur la planète. À tout de suite.